Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Stéphane Hugon du cabinet Eranos, qui est un cabinet d'études sociologiques, principalement sur les marques de luxe.
Et aussi sur le bancaire, et aussi sur l'industrie beaucoup. Et la défense.
D'accord, donc sur beaucoup de typologies de marques. Et Stéphane, ça fait longtemps qu'on se connaît, et on a plein de conversations différentes sur plein de sujets différents. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le marketing, ça reste la sociologie, l'étude de l'autre. Il y a plusieurs tendances, mais il y en a une qui est très forte et qui est intéressante, je crois, qui est le retour à la terre. On le voit en particulier chez les Parisiens qui partent à la campagne, qui ont des maisons de campagne, mais on voit de plus en plus, et on va le voir, je pense, de plus en plus avec les voitures autonomes, des gens qui vont retourner beaucoup plus dans la terre. Il y a cette étude qui a été faite par des Japonais il y a quelques années qui disait finalement, ça fait deux générations qu'on a quitté la terre au sens... terrien du terme. Et en fait, l'humain, il est fait pour être connecté à la Terre. Il n'est pas fait pour être en dehors de la Terre. Et finalement, la ville est un organisme pratique parce qu'il y a tout à proximité, on socialise, même si moi, je pense que ça rentrait très seul, mais enfin, c'est encore un autre sujet. Mais on est peut-être, et ça dépend des villes, on va aussi peut-être faire cette segmentation entre des villes qui sont, ce que tu disais tout à l'heure, très autour du béton, et puis d'autres qui intègrent la nature. D'où ça part cette tendance? Est-ce que l'homme, il est censé être connecté à la Terre à l'origine?
Je crois que tu as dit quelque chose de très juste, c'est que c'est un retour à la Terre, c'est pas un aller à la Terre. Ça veut dire qu'il y a un épisode précédent dans lequel nous étions à la Terre, c'est-à-dire que nous avions une relation immédiate avec l'environnement. Et du coup, là, on peut se placer d'emblée sur une échelle un peu historique, et j'ai même envie de dire une échelle très longue, parce que dans notre imaginaire, sur le fond, on a des archétypes qui ont... 8 ou 10 000 ans du moment où nous étions des chasseurs-cueilleurs. Il va rester une trace dans notre cerveau reptilien de ces expériences-là.
On a 20 minutes.
D'accord. Alors, en deux secondes, 8 000 ans en deux secondes. Pendant très longtemps, le rapport à la nature, il était un rapport matriciel. C'est-à-dire que la nature nous fournissait ce dont nous avions besoin. Et du coup, les chasseurs-cueilleurs, ils s'installaient quelque part, par groupe. Ils cultivaient, ils chassaient, ils cueillaient, puisque c'était leur job, autour d'eux. Et une fois qu'ils avaient prélevé l'essentiel des subsistances, le lieu était moins généreux. Et du coup, ils étaient obligés de bouger. Du coup, c'est pour ça qu'ils étaient à la fois les chasseurs-cueilleurs, ils étaient donc nomades. Et à un moment donné, c'est ça qui fait une grande bascule dans notre imaginaire occidental, et pas qu'occidental, mais aussi, c'est qu'à un moment donné, ces chasseurs-cueilleurs, ils se sont sédentarisés. Et en se sédentarisant, ils ont obligé la Terre à fournir de manière plus régulière et de manière plus forte les besoins de subsistance. C'est l'invention de l'agriculture. Et avec l'invention de l'agriculture, c'est l'invention de la technique. Et du coup, c'est un rapport symbolique beaucoup plus fort à l'environnement, puisque c'est aussi le début de la thésaurisation, c'est-à-dire que les familles se succèdent au même endroit et du coup habitent les mêmes maisons. En fait, c'est le début de la ville. Voilà. Donc, ce qui est intéressant que dans notre imaginaire très profond, c'est qu'il y a un moment donné, et ce que tu as dit est juste. Il fut un temps où nous étions tout simplement dans un rapport d'égalité avec la nature. Mmh. Et aujourd'hui, nous avons pris un rapport de prédation vis-à-vis de la nature.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'au bout de 8000 ans, ça allait être un cycle. On se renomadise. Et la ville qui a été une promesse d'émancipation, une promesse de modernité. Mmh. On vient à la ville, comme on dit en France, on monte à Paris pour faire quelque chose. Donc on s'arrache à son village, à sa famille, à sa communauté. Et on rejoint la ville pour faire quelque chose, pour décider de quelque chose. Et ça, c'est un mythe qui est très fort. Mmh. C'était le vieux Marx, hein, disait que l'air de la ville rend libre. Voilà. Donc il y a un fantasme de libération par la ville. Mais tu l'as dit aussi, la ville produit aussi beaucoup d'ennuis. Mmh. Et que passer un moment où on est grisé par l'esprit de la ville, eh ben on s'aperçoit que dans la ville, on s'ennuie parce qu'on a perdu ces relations primales que nous entretenions, non seulement avec l'espace naturel, la terre, on y vient, mmh. Mmh. mais aussi avec la communauté. Mmh. Voilà. Donc en fait, la ville produit un individu solitaire. La foule solitaire, hein, ça a été déjà dit par les romantiques de la fin du 19e. Donc aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a le sentiment qu'on est dans un moment particulier de notre imaginaire sur lequel il y a comme une fascination de ce retour au végétal, mm-hmm. de ce retour aussi, une relation plus crue entre les personnes, une sorte de réensauvagement. Mmh. L'idée de retrouver des relations primales avec la lumière, avec les matériaux, avec l'alimentation,
ouais.
Avec le bruit de la forêt, avec l'eau, avec les éléments. Voilà. Mmh. Donc il y a ça, c'est très fort.
Il ne faut pas oublier que finalement la France, c'est un pays de paysans. Enfin, je veux dire, sans jugement aucun. Non, mais ça reste un pays de paysans à l'origine. On est deux générations, c'est ça, à avoir quitté la terre finalement en France. Et d'ailleurs, quand tu lis Harari, Sapiens, c'est hyper intéressant ce qu'il explique sur la possibilité des humains de se connecter à 150 personnes, enfin, sans reprendre le chiffre de Dunbar, mais c'est vraiment l'idée de se dire qu'une communauté, une communauté, c'est 150 personnes et pas beaucoup plus. Et finalement, les villes, c'est pour ça que je disais, c'est pratique. Mais quand tu vis à New York, tu te rends compte que plus la ville est grande, bah, plus tu es seul, en fait. T'as vraiment cette tendance-là. Et c'est vrai, j'aime beaucoup ce que tu disais sur les matériaux, c'est-à-dire qu'on a cette résurgence, alors sur les réseaux sociaux en particulier, on va le voir sur Pinterest, sur Instagram et autres, du retour au matériel brut, au bois, parfois au béton d'ailleurs, mais aussi cette on aime bien aussi mixer les deux d'ailleurs, bois et béton, ce retour aux matières brutes. On voit aussi les espaces de travail qui évoluent, on voit en particulier sur Instagram cette tendance des plantes et du verre. Dans les espaces de coworking aussi, on a beaucoup ce mélange des genres. On voit des entreprises. On a reçu ici le président de Pierre Fabre Cosmétiques qui expliquait qu'il avait invité ses collaborateurs. Ils ont réfléchi au travail de demain et à sortir des bureaux, justement. Donc, il y a aussi ce retour à la nature, sachant que Pierre Fabre, ils sont bien au milieu de la nature et pas à Paris, en l'occurrence. Donc, il y a aussi cette grosse tendance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière, enfin, tous ces gens qui partent de la ville, il y a quand même, enfin, c'est une vraie tendance, bien sûr qu'il y en a plein qui restent, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire sur l'évolution du citadin ou de l'humain dans la ville, on va dire.
Je pense qu'il y a une recherche de sens. Il y a quelque chose de tout à fait paradoxal avec la ville, c'est qu'elle a séparé la nature de la culture. Mmh. Et que du coup, la ville est devenue le lieu de l'artifice. Mmh. Voilà. Et à un moment donné, comme tu l'as dit, il y a passé ces deux générations que tu as évoquées, on a comme un espèce d'appel presque un peu irrationnel de retrouver ces expériences de réenracinement, de réencyclage dans une lumière du matin, une lumière du soir. Mmh. On découvre qu'on est allé très loin dans l'artifice parce qu'on a inventé cet étrange mot qui est la climatisation, c'est-à-dire l'idée qu'on va faire du climat, qu'on va produire le climat, mmh. et qu'on va être dans quelque chose qui est peut-être un mensonge, qui est l'idée de maintenir une température et une lumière qui soient la même du matin au soir et de janvier à décembre. Mmh. Donc d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a cette pulsion de réensauvagement. Elle va être à la recherche d'une harmonie perdue. Je pense qu'il y a une grande part de nostalgie. Une nostalgie dans le rapport qu'on a avec les matériaux de la nature.
Est-ce que c'est une nostalgie ou est-ce que c'est un besoin physiologique de retourner à la terre ? Moi, je connais quelqu'un qui marche une demi-heure pieds nus dans la terre, quasi tous les jours, pas en hiver, mais qui marche tous les jours dans la terre parce que c'est un besoin ressenti, comme on dit souvent que marcher dans la forêt, Ça a un impact physiologique parce qu'on reste des animaux malgré tout. Donc,
c'est très juste parce que moi je me souviens d'une une hôtesse d'ailleurs sur une compagnie m'avait raconté que c'était dans un long courrier m'avait raconté que de toute manière nous appartenons à la Terre.
Bien sûr.
Je crois qu'il se dit des choses à 10 000 mètres d'altitude qu'on ne tiendrait peut-être pas sur le plancher des vaches, mais sur le fond, avec ses mots, elle avait raison. C'est-à-dire que nous sommes une partie vivante de la nature. Mmh. Et qu'elle, qui passait beaucoup de temps en l'air, elle avait besoin, quand elle entre deux escales, de, très justement, elle prenait des bains avec du sel. Parce qu'elle disait, elle venait compenser le vide et le manque qu'avaient occasionné ces séjours en avion. Mmh. Et que sur le fond, nous faisons partie de la nature, on en est de cette nature humaine, et que c'est une petite parenthèse dans notre histoire collective dans laquelle nous avons eu la prétention de vouloir et maîtriser la nature ou l'exploiter ou s'en distinguer à minima, et qu'aujourd'hui on est rattrapé par quelque chose qui est très fort, qui est effectivement plus qu'une nostalgie, une identité collective qui fait que nous appartenons à ce grand tout qui est, avec une dimension un peu mystique,
bien sûr.
Qui est ce rapport très justement à la lumière, aux matériaux, etc.
Et d'ailleurs, j'ai fait une intervention chez Essilor et il me disait que finalement, les enfants étaient de plus en plus myopes, et pas parce qu'ils sont derrière des écrans, mais parce qu'en fait, ils ne vont plus assez dehors et qu'ils n'ont pas justement cette différence de lumière et pas assez de perspective. Qui font qu'à la fin, leurs yeux ne se construisent pas de la bonne manière. En fait. Donc cette différence de lumière, elle est aussi importante rien que pour la construction de ton œil, finalement.
Et puis en plus, je crois qu'il y a un imaginaire du retour à la Terre qui est proprement occidental et assez européen. Parce que moi, j'ai la chance d'aller de temps en temps au Brésil et ouais. Je vois à quel point les Brésiliens ont un imaginaire, une culture, on va dire, de la nature qui est très différente de la nôtre. Je me souviens qu'on avait fait un programme sur la question de ce qu'ils appellent la sustainabilidad, donc le sustainable, et on avait permis à des marques françaises et brésiliennes de se rencontrer pour essayer de dire qu'est-ce qui se passe quand ils parlent du durable et quelles sont les expériences qu'ils mettent en œuvre. Et derrière ça, il y avait tout un rapport à la nature qui était complètement différent. Les Brésiliens apportaient des expériences qui, chez nous, ressembleraient plus à de la RSE, c'est-à-dire le rapport à l'autre. Tout simplement parce que pour eux, la nature, c'est la nature humaine. Alors que pour nous, la nature, c'est la chlorophylle, c'est le végétal. Et en plus, ce que nous disaient les Brésiliens, c'est que les occidentaux et les marques occidentales en particulier, quand elles parlent du naturel, elles en parlent avec le sentiment de la culpabilité. Comme si on portait sur nous la responsabilité d'avoir dévasté, c'est-à-dire d'avoir coupé ces relations primales de l'homme avec son environnement que ton copain vient rétablir grâce à ses promenades pieds nus dans la terre.
Et alors, est-ce que ce retour au bio, ça rentre dans cette même tendance ou... Parce qu'on a quand même cette grosse tendance autour du bio, du vegan, qui est extrêmement forte en ce moment dans les villes, je pense, peut-être en dehors des villes également, mais
oui,
en
alors, cas dans les villes. Il y a un truc un peu paradoxal en fait entre le bio et le vegan, parce que à la fois le bio, c'est quelque chose qui nous rappelle que que la nature porte de la différence, porte des fruits et des formes qui sont toujours variables, alors que toute l'industrie agroalimentaire avait un peu standardisé ces formes-là, standardisé des couleurs, des sensations, etc. Il y a même tout un mouvement qui retrouve du plaisir dans l'épluchage de légumes. Il y a même des cuisinistes qui profitent de ça pour offrir à leurs clients justement des moments sociaux sur lesquels on redécouvre l'idée de préparer la cuisine ensemble, qui est une manière de se réencycler dans le cycle complet du produit, en fait. Peler, écouter, voir des couleurs, s'émerveiller, toucher, le toucher. Et il y a toute une espèce d'érotique sociale comme ça autour de nos rapports à la nature que nous avions perdus et qui, dans certains cas, sont retrouvés, peuvent être esthétisés. Mais ça, c'est le bio qui nous rappelle cette mémoire ancienne de notre rapport à la nature. Sur le vegan, c'est un peu particulier parce que ce qui anime souvent les gens dans le vegan, c'est l'idée de la non-prédation. C'est-à-dire de ne plus vouloir être un prédateur des animaux en particulier.
Forcément.
Et de rétablir une dimension presque un peu politique entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Qui est une manière de reproduire et de propulser, je dirais, de l'artificiel sur de la nature. Parce qu'il ne faut pas oublier que le naturel, passé le bio, il y a aussi quelque chose de très obscur dans le rapport à la nature. Parce que Le rapport de nature, c'est aussi la loi de la jungle. C'est la loi de la force. C'est la loi du sang. C'est la prédation. C'est la chaîne alimentaire.
Parce qu'on reste des animaux, quand même.
On reste des animaux. Donc, en fait, c'est pas cool du tout, le bio. Non, il peut y avoir une dimension...
Vegan.
Le vegan, pardon. Le vegan n'est pas cool du tout parce qu'il a une dimension, sur le fond, qui va essayer d'intervenir dans le rapport à la nature pour projeter quelque chose qui est proprement humain, en fait. Donc, en fait, il y a ce paradoxe autour du vegan que, alors, qui, heureusement, n'occulte pas tout le, tous les
ils
bienfaits,
vont nous
peut-être,
détester,
hein. du vegan. Mais il y a ce paradoxe. D'essayer de... Il y a ça dans l'antispécisme, par exemple, qui est une manière de produire du politique là où il y a de l'animalité. Et en fait, ce qui, sur un certain aspect, n'est pas tenable.
Alors, bien sûr, juste pour contrebalancer, on a, dans nos sociétés, mangé beaucoup, beaucoup trop de viande et beaucoup trop de poissons, enfin, je veux dire, de manière très évidente, pour pas trop choquer.
Non, mais le vegan, il est le fruit de son temps, c'est-à-dire qu'il est la prise de conscience aussi d'un rapport alimentaire
bien
qui
sûr.
Est totalement déséquilibré.
C'est complètement.
On est d'accord. Et que l'idée de vouloir rétablir un équilibre, une harmonie entre les espèces, ça part d'un très bon sentiment.
Bien
et
sûr.
Les vegans dont je parle, c'est les excès du vegan, mais c'est pas le vegan en soi, hein, c'est bien évidemment.
Et justement, pour parler des excès, on va continuer dans cet angle-là. Qu'est-ce que tu penses des... on a écouté ensemble, enfin pas ensemble, mais tous les deux, un podcast qui s'appelle Thinkerview, qui est extrêmement pertinent pour ceux qui ne le connaissent pas. Et entre autres, sur ce retour à la Terre, mais d'une manière un peu plus véhémente, puisque c'est le titre du podcast, c'est La fin de la civilisation. Et donc sur les survivalistes, donc les gens qui ont des bunkers, qui stockent de la nourriture, qui réapprennent à vivre de manière sauvage, donc à tuer... Il y a le retour de la force physique. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Est-ce que, enfin...
Alors, c'est assez particulier parce que chez les survivalistes, je pense qu'il y a aussi... Il y a tout un tas de côtés un peu obscurs parce que le rapport à la force, le rapport à la violence, cette dimension un petit peu paranoïaque, l'idée de se préparer à la catastrophe, l'idée de reproduire...
C'est très américaine, d'ailleurs. Ça.
Oui, tout à fait. Ouais, on collecte toutes les stratégies qui permettent d'être autonome, etc. Je pense que c'est plus... Il faut le voir, en sociologue, je dirais que c'est plus une question de relations sociales. C'est-à-dire que le rapport universaliste avec le reste de la société, à un moment donné, éclate. Et il y a ce besoin, à la fois vis-à-vis de l'extérieur, de se méfier, de se préparer, y compris de manière armée, mais il y a aussi une manière de reconstituer un espace qui est un petit territoire de confiance sur lequel les relations avec les personnes vont être des relations qui vont être beaucoup plus fortes et beaucoup plus entières. Voilà. Donc je pense que le survivaliste, il n'est jamais que l'indice d'une transformation du lien social qui considère que le lointain devient quelque chose de suspect et de néfaste et qu'il faut se recentrer sur une forme de localisme ou une forme de communauté au premier sens du terme, c'est-à-dire ceux avec lesquels on va combattre contre l'altérité. Voilà. Alors, il y a plein de dérives, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans ce type de communauté, on se méfie des autres. Pourquoi ? Pour essayer de reconstituer une relation qui, entre nous, avait disparu. Donc, je ne sais pas si les survivalistes eux-mêmes sont conscients qu'ils ne sont qu'un indice sur la transformation du lien social.
Je pense qu'ils n'aimeraient pas cette idée.
Mais c'est un classique qu'on a dans tous les systèmes un peu guerriers. C'est-à-dire, on recherche l'union sacrée, c'est-à-dire une relation forte, pleine et entière et accomplie entre nous, en projetant sur le reste du monde une suspicion, un déni ou un rapport de... C'est les prémices du racisme, hein, sur le fond. C'est on rejette sur l'autre la fragilité de notre lien social. Voilà. Donc, c'est toujours à double sens, hein, ces systèmes-là.
Et alors, du coup, pour revenir à ce sujet du retour à la nature, moi, je connais aussi des communautés, en particulier en Angleterre, mais ça existe également en France, de gens qui vont se retrouver dans la forêt pendant X, peut-être un ou deux mois, peut-être 15 jours, à vivre vraiment de manière naturelle, dans le sens où sans douche, sans toilette, etc., etc. Ça rentre dans cette même tendance ou est-ce que c'est une sorte d'excroissance ou une tête de signal faible d'un besoin, d'un retour à la nature d'où ça part ce...
Moi, j'ai le sentiment que parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font de manière soit anecdotique, soit de manière beaucoup plus poussée. Je pense qu'il y a un basculement qui vient sceller la fin d'une société qui était la société du XXe siècle, qui était structurée par le rapport industriel. Et qu'est-ce que c'est que l'industrie dans notre rapport au travail, notre rapport à la nature? C'est l'idée qu'on a perdu la compréhension de la production des choses, de la production des services. Voilà. Et que, sur le fond, le modèle industriel, à la fois, il nous a apporté beaucoup de confort, à partir des années 50, bien évidemment, et à un moment donné, ce confort a fragilisé une forme de lien social qui existait à la fois entre les gens qui produisent et entre les gens qui consomment. Et je pense que derrière cette nostalgie de la Terre, l'idée de se remettre dans des conditions précaires de production et de consommation, c'est une manière un petit peu subtile d'essayer de reconstituer des formes communautaires et artisanales. Et ce qui est intéressant dans les formes communautaires et artisanales, c'est que d'abord, ça donne un rôle à chacun. Ça donne une codépendance des uns avec des autres.
C'est très communautaire.
C'est très communautaire. Mmh. Ça reproduit l'idée d'une connivence, d'un esprit de groupe et surtout d'une utilité sociale et collective de tous. Voilà. Donc sur le fond, il y a une espèce d'utopie dans l'idée du produire ensemble et du consommer ensemble qui est la communauté de l'artisanat et qui est quelque chose qui vient stopper ou contrebalancer la promesse de l'industrie dont on voit bien qu'elle arrive un peu à essoufflement. Et d'ailleurs, faut se souvenir qu'au tout début, au moment de la révolution industrielle, en France et en Angleterre, il y avait ce mouvement que tu connais, qui s'appelle le mouvement ludiste, et qui était un mouvement qui était dans les milieux, disons, agricoles, mais aussi dans les gens qui produisaient du tissu, dans les métiers à tisser. Et en fait, c'était un mouvement qui voulait détruire les machines et qui considérait que les machines n'étaient pas bonnes pour la société. Alors, elles produisaient plus vite, certes, mais à côté de ça, elle détruisait le lien social qui vient de l'idée de
faire
la moisson,
ensemble.
Par exemple, la moisson ou les vendanges, c'est une fête. C'est pas seulement un acte de production économique, c'est aussi un acte de lien social. Voilà. Et pareil pour les métiers à tisser, qui à la fois permettaient de produire beaucoup plus de draps, mais qui avaient brisé à la fois une éthique, on va dire, des artisans ou une éthique ouvrière, etc. Donc sur le fond, la machine, là, était une manière de briser les relations qui existent entre les hommes. Et ça a été repris après sur le. Dans
et puis temps. Et puis on a toujours la problématique d'ailleurs avec l'intelligence artificielle. Je pense que on retrouve les mêmes discussions, alors les mêmes débats sur des technologies modernes. Et pour juste finir sur les technologies modernes, je parlais au tout début des voitures autonomes. Qui, à mon sens, et si tu regardes ce que font des cabinets spécialisés sur la ville, ils te disent aussi ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de retour à la terre naturelle, puisque une voiture autonome va te permettre d'avoir ton bureau dans ta voiture nécessairement, donc d'habiter plus loin du centre-ville, donc il va y avoir un désengagement des villes au profit de la banlieue proche ou pas banlieue proche, mais d'ailleurs banlieue plutôt éloignée. Donc ça va permettre de désengorger les villes finalement, non?
Alors oui, c'est drôle parce que nous, on a fait l'année dernière un gros test grandeur nature sur des véhicules autonomes.
D'accord.
Et on l'a testé auprès de familles, en fait, pour un grand constructeur français. Puisqu'en fait, on sait que les véhicules autonomes, OK, la techno est prête.
Oui.
Et maintenant, quel est l'imaginaire qui va permettre l'appropriation de ce service? Et c'était la question qui nous était posée.
Bien sûr.
Et on a essayé de savoir, d'aller voir des familles, pour savoir à quelles conditions elles accepteraient de mettre leur gamin dans cette étrange boîte. Parce que même si on sait que ça marche, y a tout ce qu'on a évoqué.
Il y a l'émerveillement et la peur.
Voilà, exactement. C'est jamais qu'une machine. On a évoqué ensemble déjà l'idée que la machine, dans notre imaginaire occidental, à un moment donné, elle était suspecte, elle prenait le dessus, etc. Donc, à quelles conditions on va pouvoir le faire? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que sur le fond... l'imaginaire qui était le plus mature auprès de ces familles qu'on est allé écouter, qui ont testé les véhicules en question, ce n'était pas l'imaginaire de l'automobile. C'était l'imaginaire d'autres métiers, notamment de l'hôtellerie, de l'entertainment. Parce qu'à partir du moment où on ne tient pas le volant, le référent culturel qui s'inscrit dans cette expérience-là, bah, c'est quelque chose qui est plus proche de l'ascenseur ou même de la chambre d'hôtel plutôt que de l'automobile. Donc, on va associer à la fois des modèles économiques, à la fois des interfaces et pourquoi pas une identité de marque, une identité de service qui va être très éloignée de toute la promesse automobile qui a duré pratiquement un siècle. C'est-à-dire le pouvoir, la puissance, la prédation, etc. Et donc, effectivement, ça change les temps de vie. Puisque dans une voiture, on joue, on travaille, on a toutes sortes d'activités qui on peut...
Qui est absolument impossible à avoir, bien sûr.
Exactement. On peut reboire, par exemple, avant de conduire.
C'est pas mal. Génial. Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. Donc, à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Moi, je voudrais... Il y a un Vlan possible.
Il y a plein de Vlan possibles.
Il y a plein de Vlan possibles. Il y a un Vlan possible sur ce vieux fantasme de la ville et la campagne, en fait.
Ouais.
Je disais tout à l'heure, moi j'ai la chance d'aller de temps en temps à San Paolo, il y a des orchidées qui poussent, et ça, en général, ça émerveille les Parisiens, qui poussent partout dans la ville, qui poussent sur les feux rouges, par exemple, qui poussent sur les panneaux de signalisation. Donc en fait, on est dans une expérience de la ville et de la nature et qui ne s'oppose pas l'une à l'autre. Et du coup, on a une imbrication comme ça, nature-culture. Et si je reviens à Paris en particulier, en tout cas à la France et Paris en particulier, on a une ville haussmannienne qui est extrêmement minérale, sur laquelle on a séparé le principe de nature du principe de culture. On a séparé la ville de la campagne. On a des très beaux parcs, mais ils sont séparés avec un effet de seuil extrêmement important de la ville. Je crois que le Vlan, il est là. Ce serait de réinjecter du naturel dans l'artificiel, de réinjecter de la friche, de la tourbe, de l'herbe et de la boue, et un archétype de la boue qui est à revisiter et pour retrouver ce plaisir, que ce soit olfactif, que ce soit expérientiel, de retrouver ce que tu as dit tout à l'heure comme étant l'origine de notre identité et de notre culture.
Génial. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.